Si vous voulez, vous tournez au chapitre 50 du livre du prophète Ésaïe. On a vu dans les 30 premiers chapitres de ce livre le jugement de Dieu sur son peuple qui s'était éloigné de lui, Israël, l'État du Nord qui a été emmené en exil chez les Assyriens, et puis la prophétie de l'exil du royaume du sud de Juda, capitale Jérusalem, dans l'empire babylonien. Il y a eu un intermède historique jusqu'au verset 39, au chapitre 39, pardon, et puis à partir du chapitre 40, il est question de délivrance, et de plus en plus, il est question du serviteur de Dieu. Et là, on entre vraiment dans la partie messianique du prophète Ésaïe, où on est frappé par l'exactitude des prophéties par rapport à ce que les évangélistes nous rapportent sur la venue, le ministère, la souffrance, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Certains de ces détails sont si précis qu'on a souvent considéré qu'en fait Ésaïe c'était le cinquième évangéliste ou le tout premier dans un sens, parce qu'on apprend même des choses qui ne sont pas dites textuellement dans les évangiles, mais quand on voit comment les prophéties se sont réalisées à la lettre, certaines des prophéties qui n'ont pas été reprises comme étant accomplies dans le Nouveau Testament, on va y venir, on sait que ça s'est absolument passé, et on va voir aujourd'hui le chapitre 50, si vous voulez bien suivre avec moi à partir du verset 1, chapitre 50, c'est la page 720 pour ceux qui n'ont pas de Bible, qui ont la Bible à la colombe, pardon, on leur a passé. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos fautes que vous avez été vendu, et c'est à cause de vos crimes que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle donc trop courte pour libérer? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Je réveille les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Posons ici. Nous avons vu que le prophète Ésaïe voit Juda déjà en captivité à Babylone et il voit sa libération. Mais dans sa souffrance, il semble que il annonce qu'en fait son peuple, Juda, aura le sentiment d'avoir été abandonné de Dieu. Il l'a déjà indiqué au chapitre 49, si vous voulez juste regarder 49 verset 14, un dialogue entre Israël et Dieu. Si on disait « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié », une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Dieu prend l'exemple de l'amour d'une maman pour son bébé et en disant, est-ce qu'une mère va oublier son nouveau-né? Sous-entendant que normalement c'est pas le cas. Et puis il va même plus loin et dit, supposons qu'une maman oublie son nouveau-né, et il y a quelquefois des situations tragiques de mamans déséquilibrées ou qui font du mal à leurs enfants ou qui les oublient. Mais le Seigneur affirme, même si une maman peut oublier son nourrisson, moi, je ne t'oublierai jamais. Il parle à son peuple. Et là, il va confirmer en disant, où est-ce, montrez-moi la lettre de divorce. Si nous nous reportons au Deutéronome 24:1, il y est dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne plus obtenir sa faveur, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Pour continuer, si ce dernier homme cesse de l'aimer, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une horreur devant l'Éternel, et tu ne chercheras pas d'un péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Ça semble un peu barbare. On sait que dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, Matthieu 5, 31 je crois, oui, c'est Matthieu 5, 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, faisant allusion à ce passage du Deutéronome 24:1. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Autrement dit, cette coutume, Jésus dira que Dieu est contre le divorce et que c'est seulement à cause de la dureté de leur cœur qu'il avait permis cette opportunité pour un homme de se séparer de sa femme. Jésus reprend en disant que c'est seulement pour cause d'infidélité que ça peut être le cas. À l'époque de Jésus, il y avait des rabbins qui se disputaient et qui disaient qu'en fait, si la cuisine n'était pas bonne, ça pouvait être considéré comme une chose inconvenante, qui ne seyait pas à une femme. Et donc, certains disaient, tu m'énerves, j'en peux plus, voilà ta lettre, ciao. Et Dieu connaissant bien sûr cette prescription et qui était toujours en vigueur sous Ésaïe et qui n'avait pas été corrigée par Jésus en un sens, leur dit, est-ce que j'ai signé une lettre de divorce? Souvent dans l'Ancien Testament, Israël est comparé à l'épouse de Dieu. Le peuple de Dieu est comparé à l'épouse de Dieu. Et Israël est décrite dans l'Ancien Testament comme se livrant à l'adultère. Ça veut dire c'est qu'elle n'est pas fidèle à Dieu, elle se livre à l'idolâtrie, elle s'éloigne du vrai Dieu. C'est comparé à l'adultère. Mais cette idée que le peuple de Dieu, c'est son épouse, s'est repris aussi pour la Bible, pour le Nouveau Testament. L'Église, qui comprendra les païens convertis et les juifs qui seront venus à Jésus, parce que le mur entre les deux a été aboli, ce sera l'épouse de Christ. L'Église, nous la voyons souvent comme étant pleine de défauts, et elle a ses défauts. Ce sont des gens imparfaits, les pasteurs, les responsables sont des gens qui sont dans le péché, qui sont comme tous les hommes, il n'y a pas de perfection. Et pourtant, Paul souhaitait présenter à Jésus cette fiancée sans rides et sans défauts. Et c'est seulement lorsque nous sommes vraiment en Christ, que nous avons la foi en Christ et son sacrifice à la croix, que lorsque nous lui donnons nos péchés, nous sommes revêtus de sa justice et nous avons ce, pour ainsi dire, ce vêtement parfaitement blanc. Nous sommes son épouse sans aucune tache. Je crois que c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Souvent, on ne voit pas les choses comme Dieu les voit. Et ce qui compte, ce n'est pas la façon dont on voit les choses, c'est la façon dont Dieu voit les choses. De penser que l'ensemble des chrétiens, qu'ils soient pentecôtistes, charismatiques, conservateurs, réformés, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ pour leur salut, cela constitue l'épouse du Christ. Et trop souvent, parce qu'on se connaît, on ne voit pas les choses comme Dieu les voit. Vous vous souvenez de Gédéon lorsque Dieu l'appelait en lui disant « Tu es un homme puissant, tu es un vaillant guerrier ». Et Gédéon, sa réaction, c'était de voir derrière à qui on parlait, parce qu'il savait qu'il n'était pas très puissant. En fait, quand l'ange de l'Éternel, une préincarnation de Jésus, lui adresse ces mots, où se trouve-t-il ? Il se trouve dans la cuve à vin pour séparer le son du blé, traiter le blé. Normalement, on faisait ça en haut d'une colline, au vu et au sud de tous les gens environnants. On jetait le blé en l'air. La graine plus lourde retombait et le son, la partie, l'enveloppe externe qui n'était pas valable, qui n'était pas riche en farine, elle était enlevée par le vent. Lui, il s'est mis, parce qu'il avait peur des ennemis, il s'était mis au fond de cette cave à vin, ce réservoir où on marchait sur le vin pour en extraire le jus. Et à la conférence à Ziegen, où nous sommes allés avec Daniel et Tonio, nous avons eu un très bon enseignement du pasteur Dave Guzik, qui est déjà passé ici, et qui parlait sur le fait que trop souvent, nous ne voyons pas les choses comme Dieu les voit. Et que quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, il y avait peut-être un petit peu d'ironie, mais Dieu ne peut pas se permettre de mentir. Donc cet homme qui avait peur des ennemis, qui n'était pas un héros au sens humain, Dieu voyait en lui un vaillant guerrier. Et je ne vais pas refaire le sermon, mais quelques-uns des éléments qui faisaient sa puissance, c'est qu'il était humble, c'est qu'il se sentait faible, c'est qu'il était envoyé par Dieu. Et tout ça pour dire que Dieu parle de son peuple comme étant son épouse, et là, dans le chapitre 50, revenons à Ésaïe, il leur demande « Montrez-moi cette lettre de divorce. » Il n'y avait pas encore de lettre de divorce. Dieu n'avait pas répudié complètement son peuple. Il l'avait mis peut-être de côté, il l'avait peut-être envoyé pour un temps, mais il n'avait pas répudié Israël. Et puis il utilise une autre image, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu ? Ça, c'était la coutume qui faisait que lorsqu'on avait des dettes, on pouvait se vendre. Ou quelqu'un à qui vous aviez des dettes pouvait vous vendre en esclave et ainsi récupérer sa dette. Et le Seigneur ici leur dit : vous dites que je vous ai abandonné, mais je n'ai pas signé un acte de divorce. Je ne vous ai pas vendu à des créanciers. Et puis il ajoute, voici, c'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus. C'est à cause de vos crimes que votre mère a été répudiée. Autrement dit, si vous sentez loin de moi, ne me blâmez pas pour cela. C'est de votre faute. C'est vous, à cause de vos fautes, que vous avez été vendu ici, entre guillemets, vous êtes retrouvé à Babylone. Votre mère a été éloignée, répudiée, mais pas officiellement. Et bien sûr, ce n'est pas le tout de lire ce passage du prophète Ésaïe comme un passage historique. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous dit? Dieu nous a dit, il nous a promis d'être toujours avec nous. Voici, je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai jamais, est-il dit dans Hébreu. Si nous nous sentons loin de Dieu, devinez qui est responsable. Est-ce que c'est la faute à Dieu? Peut-être que ma vie de prière, votre vie de prière n'est pas ce qu'elle devrait être. Peut-être qu'on n'a pas la consécration de passer un moment d'intimité réelle, pas juste 5 minutes pour réciter une prière ou lire un petit le petit mot sur le calendrier de la journée, sur le jour. Encore une fois, si on passe 5 minutes dans la prière, à tourner nos cœurs et nos pensées vers Dieu, disons que le reste de la journée, on a 16 heures de veille, et qu'on dort pendant 8 heures, il y a le sommeil, il y a la maintenance quotidienne, la toilette, la nourriture. Mais combien de périodes de 5 minutes dans une heure? Ce n'est pas un piège, il y en a 12. 12 fois 16, ça veut dire 196, je crois, si je m'abuse. Ou 192. 12, hein. Ça veut dire que si je passe 5 minutes par jour à penser à Dieu, 191 autre période de 5 minutes, je vais penser à autre chose. Autrement dit, je vais penser à Dieu 0,5% du temps. Est-ce une surprise que Dieu vous semble lointain? Sarkozy va être plus proche de vous. Pourquoi? Parce qu'il est dans les journaux, vous allez regarder son entretien à la télévision pendant 2 heures, vous allez avoir des commentaires dans les journaux. Et Dieu va être relégué à la périphérie de vos pensées, de votre vie. Ce n'est pas lui qui a signé un certificat de divorce, ce n'est pas lui qui vous a vendu aux médias, à TF1 ou que sais-je. C'est vous-même, c'est moi-même qui nous éloignons de lui et qui nous retrouvons loin de lui. Il y a une illustration de ce problème. Si vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous, nous dit l'épître de Jacques. Et il y avait cette histoire d'un couple de fermiers américains. Il y avait l'homme qui conduisait le petit camion. Là, il y a une seule banquette à l'avant. Et sa femme est assis bien à droite. Ils sont sur la route et ils arrivent derrière une voiture où on voit un homme et une femme. Et la femme est presque sur le volant, près de l'homme. Derrière, il y a marqué « Just married », « nouveau marié ». Et la femme nostalgique dit « Tu te rappelles le temps où on était comme eux, on était si proches ?» Et son mari lui répond, mais je suis toujours à la même place, au volant. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Dieu est toujours présent. Il est là pour nous aimer, pour avoir cette communion. Il est comme le père du fils prodigue. Il attend qu'on vienne le voir. Il a des trésors d'intimité à partager avec nous. S'il y en a qui n'ont pas eu le CD d'Austen, qu'il aimerait, venez me voir. Elle avait une très belle chanson sur son jardin secret de prière. Et c'est quelque chose de très précieux, un jardin secret de prière. Il y a la prière en commun, il y a la prière, les 3 jours de prière, mais tout ça, c'est s'il n'y a pas une intimité dans la prière avec Dieu, c'est un peu forcé, c'est un peu bon, on va tous mettre à gauche sur la banquette, on va se rapprocher de Dieu, mais le cœur n'y est pas. Dieu veut tellement que... C'est son cri, je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle donc trop courte pour délibérer? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? La réponse, bien sûr, c'est une question rhétorique. Bien sûr que sa main n'est pas trop courte. Bien sûr qu'il a assez de force pour délivrer. Et pourtant, c'est lui qui vient un peu comme le père du fils prodigue et qui vient nous chercher. Et il n'y a personne qui est là pour s'approcher de lui, pour venir à lui. Nous sommes bloqués dans nos problèmes, dans nos situations, et on ne lui demande même pas son aide. Ça nous rappelle le passage des Proverbes. Proverbe 1, verset 20, page 626, si vous voulez regarder dans la Bible à la colombe, où Dieu, sous la forme de la sagesse, si vous avez besoin de sagesse, demandez-la à Dieu qui la donne abondamment. La sagesse venue d'en haut, nous explique Jacques dans son épître. Verset 20, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux brillants, à l'entrée des portes dans la ville. Elle prononce ses paroles. Jusques à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? C'est fort ces mots. Bande d'imbéciles! Jusqu'à quand vous n'allez pas venir à moi? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes réprimandes. Voici que je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'ai appelé et que vous avez résisté. Puisque j'ai étendu ma main et que personne n'y a prêté attention. Puisque vous avez rejeté tous mes conseils et que n'avez pas voulu mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur viendra sur vous. Quand la terreur viendra sur vous comme une tempête et que le malheur arrivera sur vous comme un tourbillon, quand l'angoisse et la détresse viendront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur conduite et se rassasieront de leurs propres conseils. Car l'égarement des stupides les tue et l'insouciance des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure, il vivra tranquille sans craindre le malheur. Parole assez forte. Dieu nous dit, quand tout va bien, vous ne venez pas à moi. Vous vous moquez de moi. Je vous appelle, vous ne venez pas. Puis quand il y a les problèmes, alors là c'est la crise, là on essaye de venir vers moi. Et vous allez vous nourrir du fruit de leur conduite, et vous allez vous rassasier de vos propres conseils. L'égarement des stupides les tue. On peut traduire ça aussi par le fait que ceux qui sont loin de Dieu, c'est qu'ils se complaisent. Dans cette situation, ils se disent, bon, ben, j'ai entendu parler de la Bible, oui, je suis chrétien, mais ils mènent leur vie indépendamment de Dieu. Et cette insouciance, ça les perd. Dieu est celui vers qui nous devons nous tourner pour toutes nos décisions. On peut même prier que les petites décisions... On les considère à la lumière de sa vérité, de sa parole, et si on n'est pas sûr, de lui demander quelle est la voie à suivre. Un peu comme un enfant qui au sortir de l'adolescence, veut faire sa vie. et qui va prendre des mauvaises décisions sur mauvaises décisions. Et les parents qui n'ont pas toute la sagesse, mais qui ont une certaine sagesse acquise par l'expérience de la vie, savent qu'il n'y a pas grand-chose à faire parce que l'enfant est rebelle. L'enfant doit faire ses tristes expériences et combien de chagrins, combien de bêtises pourraient être évitées si l'enfant venait vers ses parents. C'est vrai en partie, imparfaitement pour la relation entre un enfant et ses parents, mais c'est totalement vrai pour la relation entre un croyant et son Dieu. Toutes nos décisions, nous pouvons les... Il n'y a pas de petites choses pour Dieu. Il y avait un pasteur anglais, J. Campbell Morgan, qui a écrit beaucoup de commentaires, qui a été très influent. Et il expliquait qu'on pouvait tout dévoiler à Dieu. On pouvait ouvrir son cœur et lui demander son amour, son conseil dans toutes les décisions, lui demander son intervention. Et après le culte, cette dame, et il y a une dame anglaise qui est venue vers lui et qui lui a dit « Pasteur, je crois que Dieu est trop occupé pour s'occuper des petites choses de ma vie. » Donc je le dérange pas avec les petits détails de ma vie. Et la réponse du pasteur, ça a été de dire, Madame, quelles sont les choses importantes de votre vie? Pour dire que pour Dieu, il n'y a pas des choses importantes. Pour nous, ça nous paraît important. Mais les petites choses de notre vie, les grandes choses de notre vie, pour Dieu, ce sont des petites choses. Il a la puissance, il a la capacité de nous guider en toute chose. Alors ça ne veut pas dire que j'ai connu des personnes, et Dieu les bénisse, qui vont, on leur demande, est-ce que tu veux un gâteau? Attends, je vais prier. C'est peut-être sage. Mais avoir cette attitude de soumettre nos décisions, nos choix, les soumettre à Dieu. Parce qu'il est capable de nous libérer des mauvais choix. Il est capable de nous délivrer. Il peut simplement, par sa menace, par sa parole, il peut ouvrir un passage dans la mer. Il dessèche la mer. Il réduit les fleuves en désert. Il peut revêtir les cieux d'obscurité, de faire d'un sac leur couverture. Là, on voit tout à fait on va voir que de plus en plus, Ésaïe va parler de la croix, de la crucifixion. Et là, on a presque une première note sur ce motif, sur cette mélodie qui commence, cette triste mélodie. Et on voit l'obscurité qui est tombée sur le mont de Golgotha lorsque Jésus a rendu l'esprit. Il peut revêtir les cieux d'obscurité. Il a une puissance inouïe. Ça, c'était un peu... Ces premiers versets, c'était un peu le thème de la femme infidèle, des croyants qui ne font pas confiance à Dieu, qui s'éloignent de lui, qui se laissent éloigner par des tas de choses. Maintenant, entre les versets 4 à 9, c'est ce qu'on appelle des fois le troisième chant du serviteur. Et là, des versets qui s'appliquent tout à fait au Messie. Je lis à partir du verset 4. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebellé, je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été outragé. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un roc, sachant que je ne serai pas honteux, celui qui me justifie est proche. Qui veut entrer en procès contre moi? Affrontons-nous. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi. Voici que le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Qui me condamnera? Voici qu'ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Verset 4, le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples ou de ceux qui sont instruits pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. C'est Jésus qui parle et qui dans son incarnation reconnaît que Dieu lui a donné le langage de ceux qui savent, de ceux qui sont instruits, pour qu'il sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Souvenez de ce verset dans le Nouveau Testament. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car je suis humble et doux et humble de cœur. » Et c'est Jésus qui parle, qui réconforte. Par une parole, il peut réconforter. Vous pouvez être déprimé, vous pouvez être dans la difficulté, vous lisez sa parole et quelque chose vous touche et vous êtes guéri de cette dépression, vous êtes guéri de cette déprime. Il éveille chaque matin mon oreille pour que je l'écoute. Ça parle bien sûr de la prière, du temps encore une fois qu'on passe avec le Seigneur. Et bien souvent, on pense gagner du temps, ou on n'a pas le temps, ou on ne prend pas le temps. Et malheureusement, c'est des fois mon cas, de ne pas prendre le temps qu'il faut pour parler à Dieu, pour l'entendre d'abord. On l'entend par sa parole. On doit lire la Bible. Prier et lire la parole chaque jour. Ce n'est pas du luxe, ce n'est pas seulement pour les pasteurs ou les missionnaires, c'est le bon sens. Parce que c'est quand j'écoute que je peux recevoir ce mot qui va me permettre d'encourager quelqu'un. C'est quand j'écoute que je suis prêt à recevoir sa parole, que moi-même, qui suis fatigué, je vais être réconforté. Et je dois l'écouter à la manière des disciples. Le disciple, ce n'est pas seulement quelqu'un qui connaît les choses, c'est quelqu'un qui adhère à ce qui est exposé par le maître et qui en fait une règle de vie. Et là, c'est souvent là que le bât blesse pour nous les chrétiens. On sait ce qu'il faut faire, mais trop souvent on ne le fait pas. Et cette différence entre ce qu'on sait être la bonne chose à faire et ce qu'on ne fait pas, et ce qu'on fait plutôt, c'est le problème de notre éloignement de Dieu. On ne peut pas espérer avoir son intimité, sa communion, si on fait délibérément des choses qu'on sait être mal. On peut lui demander son aide si on a ce problème. Il est heureux de venir nous aider. Il est heureux de nous délivrer des tentations, de nous fortifier, de nous donner la victoire sur le péché qu'il a acquise à la croix. Nous montrer qu'en fait on n'est pas obligé de capituler devant notre chair, notre vieille nature, les tentations de ce monde que Satan utilise pour nous éloigner justement de Dieu. Prenons le temps, chaque jour, chaque matin. Le matin, c'est quand même un moment privilégié. Moi, j'ai du mal le matin. Le soir, c'est plus facile pour moi, mais c'est vrai que le matin, c'est le calme. Alors le matin, ça commence, pour être levé le matin, il faut se coucher tôt le soir. Il n'y a pas de secret. Ou alors, on se retrouve encore plus... On a une réunion de prière le matin entre hommes, et bien souvent, on est tous un peu en veilleuse. Heureusement qu'il y a le café pour nous secouer. Prions pour avoir cette discipline. Prions pour... Ce n'est pas une question de prendre des résolutions dans la force de notre chair. Demandons à Dieu qu'il nous aide, si c'est la soif de votre cœur, de grandir dans l'intimité avec lui. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas rebellé. En fait, là, il est question d'une coutume qui voulait que lorsqu'on était esclave en Israël, au bout de la sixième année, on avait le jubilé, le maître nous remettait en liberté, mais il y avait la provision, il y avait la possibilité pour ceux qui aimaient leur maître, qui souhaitaient rester à son service, de rempiler, de dire « Non, je veux continuer, je ne veux pas être libéré, je continue à être ton serviteur. » Ça, on trouve ça dans l'Exode, dans chapitre 31 notamment, où pour signifier qu'une personne avait ce statut d'esclave volontaire, d'esclave désireux, de rester au service de son maître et d'aimer son maître, on mettait l'esclave contre un poteau de bois, on prenait un poinçon métallique, un marteau, on lui faisait mettre son oreille contre le bois, et clac, on lui faisait un trou dans l'oreille, on lui perçait l'oreille. Vous dites, c'est horrible, c'est barbare. Il y en a combien, je ne vais pas demander qu'on lève les mains, mais combien d'entre vous qui se sont fait percer les oreilles déjà, pour mettre une jolie boucle d'oreille ou quelque chose? C'est pas un mal en soi, mais ce n'est pas si cruel que ça paraît. C'était un signe pour le monde, de voir qu'il y avait un esclave volontaire, que cet homme restait au service de son maître, non pas parce qu'il n'avait pas d'autre choix, mais parce qu'il l'avait librement choisi. Et c'est cette idée, c'est le Messie qui est venu, description dans Philippiens 2, lui qui n'a pas estimé d'être l'égal avec Dieu comme une proie à arracher, il s'est librement, volontairement humilié jusqu'à la mort sur la croix, par amour pour nous, c'est cette volonté d'être offert en sacrifice, de servir Dieu, et plus loin, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Ça, ce sont les prophéties qui se sont réalisées. Il n'a pas dérobé son visage aux outrages et aux crachats. Il a souffert l'humiliation volontairement, par amour pour moi, par amour pour vous, par amour pour nous tous. Et je crois qu'il est exact de dire que s'il y avait eu une seule personne, il aurait fait la même chose. Ce n'est pas parce qu'il a dit « bon, ben, il y en a tellement, il faut faire quelque chose, statistiquement, ça l'afficherait mal pour Dieu, bon, il y en a assez, non, j'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Par la foi. On est prêt à perdre beaucoup de choses, mais une chose à laquelle nous tenons, c'est le plus peut-être, c'est notre réputation, c'est notre renommée. Quelque chose qui nous remplit de fureur, c'est d'être injustement accusé de quelque chose, injustement représenté. Et là, l'humiliation était terrible. Non seulement il a été traité de tous les noms, mais on lui a craché dessus. De tout temps, cracher sur quelqu'un, c'est un signe de mépris terrible. c'est déjà pas bien hygiéniquement. On sait que quelques gouttes de salive contiennent des millions de germes pathologiques, de microbes. Mais c'est un signe d'humiliation terrible. Un autre signe, le fait qu'on lui a arraché la barbe. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas dit textuellement dans les évangiles. Mais à la lumière de cette prophétie et de quelques événements, des éléments dans le Nouveau Testament, par exemple sur la route d'Emmaüs, les disciples ne l'ont pas reconnu. Peut-être parce qu'il n'avait plus sa barbe. On lui avait retiré la barbe. C'est quelque chose qui fait très mal. Je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé de faire pousser une barbe. La raser, ça pique, ça fait mal. Mais si on arrache des poils, c'est très douloureux. Et en plus, c'était quelque chose d'extrêmement humiliant à l'époque. Parce que la barbe était un signe de virilité. Enlever la barbe à quelqu'un, c'était dire qu'il n'était pas un homme. On sait que David est rentré dans une colère folle lorsque des hommes ont coupé les vêtements de ses serviteurs qui étaient venus pour l'aider et qui lui avaient rasé la barbe, ou la moitié de la barbe. C'était quelque chose d'extrêmement humiliant. Et pourtant, cette prophétie formidable, le Seigneur, l'Éternel m'a secouri. C'est pourquoi je n'ai pas été outragé. Jésus a pu endurer cette humiliation extrême, cette souffrance, parce que l'Éternel l'a secouru. Et dans les évangiles, il est dit que des anges l'ont encouragé. Et puis il a dit, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un roc, sachant que je ne serai pas honteux. Et puis il continue en disant, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? C'est ce que Paul reprend dans Romains 8, 31, de façon très, très éloquente et très convaincante et très encourageante. Si vous êtes déprimé, lisez un peu Romains 8. Qui peut me condamner? Si vous êtes pour le Seigneur est pour vous, et c'est vous qui allez gagner. Alors peut-être pas dans cette vie, peut-être dans la vie future, mais cette vie, elle n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'éternité. On est tellement préoccupé, encore une fois, on voit que le présent, on arrive à penser jusqu'à l'âge de la retraite, maintenant c'est un peu plus difficile, on ne sait pas si c'est 60, 65 ans ou plus. Qui s'oppose à mon droit? Il a la conviction, parce qu'il est du côté de Dieu, qu'il sait qu'à la fin, ce n'est pas lui qui aura honte. Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Est-ce que lorsqu'on se moque de vous, vous dites aux autres, non, c'est toi qui as tort. Jésus existe, Dieu existe. Et un jour, tu regretteras, si tu ne viens pas à lui, de ne pas l'avoir fait. Il avait rendu son visage semblable à un roc. Une détermination. D'autres traductions parlent que c'était comme une pierre de silex. Ça veut dire qu'il était complètement déterminé. Est-ce que vous êtes déterminé? Alors là aussi, il y a une fine séparation entre l'autodétermination, c'est-à-dire moi je vais y arriver parce que je suis quelqu'un de bien, j'ai du caractère, ou alors d'avoir cette confiance, cette assurance, cette détermination parce que le Seigneur vous anime. J'ai rendu mon visage semblable à un roc. Vous avez peut-être connu quelques personnes comme ça, des personnes qui ont l'air d'être vraiment... Il n'y a pas d'hésitation dans leur vie. C'est tout pour le Seigneur. J'ai un proche ami qui est missionnaire pionnier en Chine auprès des Tibétains de langage Amdo. Il traduit en ce moment la Bible avec eux. Je l'ai connu à Seattle, on a été ensemble à l'école biblique. John, son prénom. Et c'est quelqu'un qui est toujours calme, qui est toujours déterminé. Et c'est pas parce qu'il, c'est parce qu'il a, il est rempli du Seigneur, il est rempli de l'Esprit Saint. Et des fois, on se dit, j'aimerais avoir cette détermination, cette absence de doute. Et en fait, Dieu est prêt à vous la donner si vous lui demandez. Il dit que ceux qui s'opposent à Dieu, ils vont tomber tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera, les mites, les insectes. Il y en a peut-être qui ont déjà eu des vêtements qu'on garde dans le placard et l'hiver arrive, on les sort, on est tout content de porter le pull et puis on s'aperçoit qu'il y a des petits trous un peu partout qu'on ne peut plus porter le vêtement en question. Les gens qui s'opposent à Dieu vont un jour se retrouver aussi impuissants que ces vêtements mangés par les mites. Qui, verset 10, qui parmi vous craint l'Éternel en écoutant la voix de son serviteur ? Quiconque marchera dans les ténèbres et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Là encore, Dieu nous invite à lui faire confiance. Dieu nous invite à ne faire confiance qu'à lui, à nous appuyer sur lui. Puis verset 11, « Voici vous tous qui allumez un feu qui formait un cercle de flèches ardentes, allez dans votre feu et dans la fournaise parmi les flèches ardentes que vous avez enflammées. C'est par sa main que cela vous est arrivé, c'est pour la souffrance que vous vous coucherez. » Ce feu, ce n'est pas quelque chose de salutaire, c'est quelque chose qui est un mauvais feu. Un peu comme les feux qu'avaient allumés Nadab et Abihu, qui étaient des feux étranges devant Dieu. Ils étaient venus devant Dieu selon leurs propres idées, sans se référer à ce que Dieu demandait. Et ceux qui allument des feux, ceux qui font des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, ils vont se retrouver brûlés par ces feux.